en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour, quelle est l'origine de la formation d'un spermatozoïde? Qu'est-ce qu'une cellule souche? Comment un spermatozoïde lésé peut-il se reconstruire? Comment des cellules spécialisées peuvent-elles redevenir des cellules souches? Voici l'un des thèmes qui a été abordé lors de la 4e édition de l'Académie des sciences sur les grandes avancées scientifiques françaises en biologie. Initiative lancée par Pascal Cossard, elle permet à de jeunes chercheurs de venir présenter leurs travaux de recherche à l'Institut de France. Lors de cette rencontre, ils sont 6 à être sélectionnés par un petit comité d'académiciens. Canal Academy a donc choisi de vous en retransmettre 2. Vous allez tout d'abord écouter l'intervention de Vilma Barocca, doctorante au CEA de Fontenay-aux-Roses et de son directeur de recherche. Ils se sont penchés sur la régénération des cellules souches germinales à partir de leurs cellules filles, cellules qui sont à l'origine de la formation d'un spermatozoïde, ce processus étant appelé communément la spermatogenèse. Les cellules souches, difficilement identifiables, sont capables de régénérer un tissu lésé, ce qui n'est pas forcément le cas des cellules filles. Ils ont donc démontré en laboratoire qu'il était possible de reconstituer une spermatogenèse normale à partir de cellules filles transplantées dans un testicule lésé. Ces cellules filles se reprogrammant automatiquement en cellules souches. Vous allez donc pouvoir suivre leur exposé qu'ils ont présenté le 9 juin 2009 à l'Institut de France.
Voilà, donc nous travaillons sur les cellules souches germinales chez l'adulte qui sont responsables donc de la production des spermatozoïdes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une cellule souche? Alors en fait, on parle de cellules souches, mais il existe plusieurs types de cellules souches. Dans l'organisme, ils sont responsables, au cours de l'embryogenèse, de la formation des tissus, mais aussi chez l'adulte, de la régénération continue de certains tissus. Donc la cellule souche, elle est principalement caractérisée par elle a principalement deux qualités. D'abord, elle peut se multiplier à l'identique, c'est ce qu'on appelle l'autorenouvellement, pour maintenir le stock de cellules souches dans le tissu. Et une deuxième capacité est d'entrer dans un processus de spécialisation qu'on appelle le processus de différenciation, pour donner différentes cellules spécialisées, d'abord les progéniteurs, puis les cellules différenciées, et ce sont ces cellules qui sont responsables donc des fonctions du tissu. Cette double capacité des cellules souches, le modèle prévalent actuellement pour l'expliquer, c'est le modèle de la division asymétrique, c'est-à-dire que les cellules souches, lorsqu'elles vont se diviser, vont donner 2 cellules filles qui vont avoir un destin différent. Une cellule fille va rester souche et l'autre cellule fille va rentrer dans le processus de spécialisation pour donc donner les cellules spécialisées. Les cellules souches sont les seules cellules dans l'organisme qui sont capables de régénérer un tissu à long terme. D'où leur intérêt en thérapie cellulaire pour réparer soit les tissus lésés ou soit les tissus qui sont déficients. Comme je vous l'ai dit, il existe différents types de cellules souches en fonction de leur origine, mais également en fonction de leur capacité de régénération. Par exemple, les cellules souches embryonnaires, elles sont capables de régénérer les différents tissus, on les dit donc pluripotentes. Par contre, les cellules souches adultes, elles ont un potentiel qui est restreint aux tissus dont elles sont issues. Si on prend les cellules souches hématopoïétiques, elles peuvent générer les cellules spécialisées du sang, les cellules différenciées du sang. Comme il y a plusieurs types spécialisés de cellules spécialisées, on les dit multipotentes. Pour les cellules souches germinales, comme elles ne peuvent générer qu'un seul type de cellules spécialisées, les spermatozoïdes, on les dit unipotentes. On voit bien donc que les cellules souches embryonnaires possèdent un potentiel thérapeutique beaucoup plus important que les cellules souches adultes. Cependant, ces dernières années, certains travaux ont introduit une nouvelle notion qui est la notion de plasticité des cellules souches adultes, c'est-à-dire la capacité de ces cellules souches à modifier leur destin cellulaire et à pouvoir acquérir de nouvelles potentialités en termes de régénération. Si on prend l'exemple des cellules souches germinales, in vivo, ces cellules souches sont unipotentes. Elles produisent des spermatozoïdes. Si maintenant, on extrait ces cellules du tissu et qu'on les cultive in vitro, elles ont la potentialité de devenir des cellules souches germinales pluripotentes, c'est-à-dire des cellules souches germinales qui maintenant ont les capacités de régénération des cellules souches embryonnaires. Et effectivement, cette notion de plasticité est très intéressante car ces cellules peuvent être des alternatives aux cellules souches embryonnaires pour la thérapie cellulaire. Mais qu'en est-il des progéniteurs, c'est-à-dire les cellules qui se sont spécialisées ? Peuvent-elles aussi également changer leur capacité, changer leur destin cellulaire et acquérir de nouvelles capacités de régénération qu'elles ont perdues normalement ? Des travaux récents, et ça a été décrit précédemment, des travaux récents ont montré que les cellules spécialisées, si on forçait l'expression d'un cocktail de gènes, d'un cocktail de 4 gènes dans ces cellules spécialisées, on obtenait alors en culture des cellules qui acquéraient un potentiel de pluripotence, c'est-à-dire un potentiel qui est caractéristique des cellules souches embryonnaires. C'est ce qu'on a appelé les cellules souches pluripotentes induites. Donc on voit qu'in vitro, après modification génétique, on arrive à induire, à reprogrammer ces cellules spécialisées pour qu'elles deviennent des cellules souches. Mais la reprogrammation des progéniteurs est-elle possible au sein du tissu ? Est-ce que les progéniteurs peuvent se reprogrammer, se dédifférencier pour redonner de nouvelles cellules souches ? Ceci n'est pas encore déterminé. Donc c'est la question que nous nous sommes posés, nous, dans le laboratoire. Et un premier indice montrait que certains auteurs avaient observé déjà une reprogrammation du lignage des progéniteurs du lignage germinal chez le mâle, chez la mouche, c'est-à-dire la drosophile. Donc ce que nous avons, nous, cherché à déterminer, c'est si ce processus de reprogrammation était observé dans le lignage germinal chez le mammifère, et notamment dans notre modèle d'étude, qui est la souris. Et c'est le travail que va vous présenter maintenant Vilma.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les cellules spécialisées qui peuvent redevenir des cellules souches. Donc, nous sommes intéressés à la lignée germinale mâle qui se trouve dans le testicule, qui est ici, et plus précisément dans les tubules séminifères. Donc, cette lignée germinale mâle aboutit à la formation de spermatozoïdes grâce à un processus de différenciation appelé la spermatogenèse. Cette spermatogenèse débute à partir d'un pool de cellules souches. Donc tout d'abord, une cellule souche va se diviser afin de donner une nouvelle cellule souche et l'autre cellule fille va entrer dans le processus de spermatogenèse. Cette spermatogenèse débute par une phase d'amplification au cours de laquelle il y aura la formation de différentes spermatogonies. Ensuite, ces spermatogonies vont entrer dans une phase de méiose qui est une réduction chromosomique pour aboutir à la formation de cellules haploïdes appelées spermatides. Ces spermatides vont subir une étape de spermiogenèse afin de former les spermatozoïdes pour avoir des spermatozoïdes qui possèdent tous les outils nécessaires à la fécondation. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la spermatogenèse débute à partir d'un pool de cellules souches. Ces cellules souches germinales ne sont pas bien caractérisées, il n'existe pas de marqueur unique afin de les purifier. La combinaison de plusieurs marqueurs nous permet juste d'obtenir des fractions enrichies en cellules souches, c'est-à-dire que ces fractions contiennent des cellules souches, mais aussi les cellules qui sont en début de différenciation. Cette population est appelée population souche. Ensuite, on distingue une autre population cellulaire, qui sont les cellules qui sont bien engagées dans la spermatogenèse et que je nommerai par la suite progéniteurs. Et vous avez enfin les cellules qui sont en fin de spermatogenèse, que l'on appelle les cellules matures. Au cours de mon exposé, je me suis intéressée seulement aux cellules dans la phase d'amplification, c'est-à-dire à la population dite souche et à la population dite progénitrice. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, un cocktail de marqueurs nous permet de caractériser tout d'abord ces cellules qui sont en phase d'amplification. Donc ces marqueurs sont tout d'abord le phénotype set population, c'est-à-dire que ces cellules ont la propriété d'effluer des colorants de l'ADN. Et toutes ces cellules expriment aussi le marqueur alpha-6-intégrine, qui est un marqueur d'adhésion cellulaire. En revanche, il existe un marqueur cellulaire membranaire qui s'appelle c-kit, qui nous permet de distinguer la population dite souche de la population progénitrice. Pour vous illustrer un petit peu plus cela, nous avons pris donc toutes les cellules qui sont dans la phase d'amplification et nous avons regardé l'expression du marqueur alpha-6 intégrine en fonction de l'expression du marqueur KIT. Et on remarque qu'il y a deux populations. Une population qui est alpha-6 plus et KIT moins, qui est donc la population dite souche, et une population qui est alpha-6 plus c-KIT plus, qui est la population progénitrice. Donc dans la suite de mon exposé, nous allons purifier ces deux populations et nous allons les étudier plus précisément. Donc la question, comme vous l'a dit Pierre, qu'on s'est posée, c'est tout d'abord une cellule souche, c'est la seule cellule qui est capable de régénérer un tissu à long terme. Cette cellule va entrer dans le processus de spermatogenèse pour donner tout d'abord des progéniteurs, puis des cellules matures. Et nous, ce qu'on a voulu voir, si chez les mammifères, est-ce que ces progéniteurs qui sont engagés dans la différenciation sont capables de se dédifférencier, de devenir une cellule souche et de pouvoir recoloniser le tissu à long terme. Afin de répondre à cette problématique, nous disposons d'un modèle qui nous permet de mettre en évidence la capacité des cellules souches à régénérer un tissu à long terme. Ce modèle est la transplantation testiculaire. Pour cela, on utilise des souris donneuses EGFP, c'est-à-dire que toutes les cellules de cette souris expriment une protéine fluorescente verte. Donc on a purifié les populations cellulaires germinales de ces souris et ces cellules ont été transplantées dans les testicules d'une souris receveuse. Cette souris a été au préalable irradiée à 10 degrés afin d'éliminer toutes les cellules germinales de cette souris. Et en plus, cette souris n'exprime pas de protéines fluorescentes, ce qui fait que la protéine fluorescente qu'on utilise nous permet de suivre les cellules dans cette souris. 10 semaines après transplantation, on récupère les testicules de cette souris receveuse et on regarde la régénération. Comme ici sur cette photo, l'apparition de tubules verts signifie que les cellules souches ont été capables de régénérer une spermatogenèse. Donc on a tout d'abord regardé la capacité de régénération de la population dite souche. Pour cela, nous avons purifié la population souche, c'est-à-dire SP alpha-6 plus c-kit négatif. Ces cellules ont été transplantées dans des souris receveuses et 10 semaines après transplantation, nous avons regardé la régénération et on remarque qu'on observe bien des tubules verts, c'est-à-dire qu'il y a bien eu une spermatogenèse. Afin de quantifier cette régénération, nous comptons la portion des tubules verts et on remarque que la population enrichie en cellules souches possède une capacité de régénération qui est 50 fois supérieure à la fraction totale. Donc afin de répondre à notre problématique, nous avons pris la population progénitrice qui a été transplantée dans des testicules de souris receveuses, c'est-à-dire c'est la population progénitrice qui est c-kit positive. Et on remarque que 10 semaines après transplantation, on observe des tubules verts, c'est-à-dire qu'il y a eu une régénération de la spermatogenèse. La quantification de cette régénération nous a permis de voir qu'elle est 5 fois supérieure à la fraction totale. Ce résultat nous a amené à nous poser tout d'abord deux hypothèses. La première hypothèse, c'est une hypothèse de contamination, c'est-à-dire que lors de la purification, on a des cellules souches qui se sont retrouvées dans la population des progéniteurs. En revanche, cette contamination a été analysée et elle est trop faible pour pouvoir contribuer à la régénération observée. Cette hypothèse étant écartée, nous avons regardé si les progéniteurs qui ont été transplantés ont été capables de se dédifférencier en cellules souches. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit précédemment, seules les cellules souches possèdent une capacité de régénération à long terme. Or, lorsque l'on transplante des progéniteurs, un an après la transplantation, on observe toujours des tubules verts, ce qui veut dire qu'on observe une spermatogenèse sur du long terme. De plus, lorsque l'on analyse les cellules dérivées des progéniteurs transplantés, c'est-à-dire lorsque l'on récupère les cellules qui sont dans ces tubules verts, on remarque qu'une population de ces cellules a récupéré un phénotype souche. C'est-à-dire qu'une partie de ces cellules exprime les marqueurs des cellules souches qui sont SP, alpha 6+, et ses kits négatives. Une deuxième chose qui nous a amené à proposer cette hypothèse, c'est que lorsque l'on récupère ces cellules dérivées des progéniteurs et qu'on les transplante à nouveau dans une souris, on observe encore une régénération de la spermatogenèse, ce qui veut dire qu'on arrive à faire une transplantation secondaire. Donc, d'après ces résultats, on observe une reprogrammation des progéniteurs en cellules souches. En conclusion, on peut dire que la transplantation de progéniteurs dans une souris qui ne possède plus de cellules germinales, ces progéniteurs possèdent une capacité de dédifférenciation en cellules souches et ces cellules souches sont capables de recoloniser le testicule. Ces cellules, ces progéniteurs sont transplantés dans un micro-environnement testiculaire et on sait que le micro-environnement testiculaire permet de réguler le destin des cellules souches. Ce micro-environnement testiculaire est constitué tout d'abord d'un espace interstitiel qui est fait de différentes cellules et de vaisseaux sanguins. On a aussi des cellules péritubulaires et puis la membrane basale qui est le tour des tubules. À l'intérieur des tubules, nous trouvons les cellules de Sertoli qui permettent de prendre en charge les cellules souches et la spermatogenèse. Dans ce micro-environnement testiculaire, il existe une région appelée niche testiculaire qui permet d'héberger les cellules souches et qui régule leur destin. Les cellules souches se trouvent dans un état quiescent, puis suite à un stimulus de la niche testiculaire, cette cellule souche va se diviser afin de donner une cellule fille qui restera une cellule souche et l'autre cellule fille entrera dans le processus de spermatogenèse. Donc on remarque que le micro-environnement permet de réguler le renouvellement et la différenciation des cellules souches, c'est-à-dire leur destin. Et il serait intéressant, c'est de regarder là, est-ce que ce micro-environnement testiculaire a une influence sur la reprogrammation des progéniteurs. C'est-à-dire, donc, cette niche testiculaire prend en charge la cellule souche afin de l'engager dans le processus de spermatogenèse pour donner un progéniteur, puis un spermatozoïde. Dans un testicule qui ne possède plus de cellules germinales, est-ce que le progéniteur transplanté se dédifférencie ou est reprogrammé par l'influence simplement du micro-environnement testiculaire? Puis, comme il est devenu une cellule souche, cette cellule souche va migrer dans sa niche afin de recoloniser le testicule. Ou alors, est-ce que ce progéniteur transplanté sous l'influence de la niche testiculaire qui ne possède plus de cellules souches. Donc à ce moment-là, ce progéniteur va migrer jusqu'à la niche testiculaire ou alors il sera reprogrammé en cellules souches et cette cellule souche permettra de recoloniser le testicule. Donc ce qui sera intéressant de regarder, c'est est-ce que cette reprogrammation a un rôle dans des conditions physiologiques, c'est-à-dire suite à une lésion des cellules souches. À ce moment-là, il y aura disparition des cellules souches. Est-ce que les progéniteurs qui restent dans le testicule, c'est-à-dire les progéniteurs survivants endogènes, sont capables d'être reprogrammés en cellules souches et de recoloniser le testicule? Donc, il serait intéressant, c'est de regarder toutes les molécules d'adhésion, les facteurs diffusibles et les voies qui sont impliquées dans ce processus de reprogrammation cellulaire. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'écouter Vilma Barocca, doctorante au CEA de Fontenay-aux-Roses. Elle s'exprimait sur les cellules spécialisées qui redeviennent des cellules souches dans le cadre des grandes avancées scientifiques françaises en biologie organisées par l'Académie des sciences depuis 2005. Restez avec nous pour la deuxième partie de cette séance. Vous pourrez télécharger l'intervention de Laurent Gros, chargé de recherche à l'Université de Bordeaux 2 et médaillé de bronze du CNRS en 2008, qui évoque pour sa part le trafic insoupçonné des récepteurs neuronaux. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.